Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. On se retrouve aujourd'hui pour le show vert de catch-up. On se retrouve pour You Talk Too Much, la 16e édition de notre talk show. Pour ce numéro 16, eh ben écoutez, peuple de catch-up, on a décidé tout simplement de vous gâter parce que on va recevoir quelqu'un de dorénavant très connu dans le milieu du catch FR et même, j'ai envie de dire, dans le milieu du catch international, chères auditrices et chers auditeurs. Vous m'avez d'abord peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner dans ce You Talk Too Much, on accueille une reine du ring. Mais alors attention les gars, hein, une reine du ring très particulière, puisque c'est une reine du ring qui fait régner la loi et l'ordre entre les cordes. On accueille tout simplement notre national referee, en l'occurrence Artemis. Salut Artemis.
Salut tout vos catch-up, salut à tous, merci de m'avoir invité aujourd'hui.
Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est avec toi pour une petite heure pour parler un peu de tous tes accomplissements dans le monde du catch, d'autant plus de la part d'une femme, c'est assez extraordinaire. Alors nous à Catch Up, on te suit depuis longtemps parce que on faisait à peu près tous partie de l'ancienne équipe des Cahiers du Catch, où tu avais eu droit à quelques articles, etc., où je crois que tu avais commis quelques petites choses sur les Cahiers du Catch, il me semble me rappeler.
Tout à fait, j'avais notamment écrit le compte-rendu d'une tournée des arènes qu'on avait fait avec la FFCP Marc à l'époque. Il me semble que j'avais fait un petit résumé pour les Cahiers du Catch.
Ouais, tout à fait, ouais, t'avais fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est assez marrant puisque c'est à l'occasion de ce papier que t'avais fait que moi j'avais découvert tout simplement les Cahiers du Catch et qu'après j'avais rejoint l'équipe comme rédacteur. Et puis, bah écoute, le podcast de Catch Up, c'est tout simplement l'extension orale des Cahiers du Catch. Et depuis, et bah écoute, on continue notre vie puisque le podcast existe depuis 6 ans. On aura mis 6 ans pour enfin t'avoir à l'antenne et on en est ravis. Alors écoute, on va commencer par ton actualité brûlante. Alors tout le milieu du catch, je sais, hein, t'as été arbitre donc longtemps à NXT UK. Je crois que ça s'est arrêté il y a à peu près 2 mois de ça. Donc j'ai envie de commencer par ça parce que je pense que c'est à peu près ce que tout le monde a envie d'entendre. C'est avoir un petit peu ton retour d'expérience sur ce taf là dans la Big League, là, à la WWE. T'as quand même bossé tout simplement pour la plus grande lead de catch au monde. Donc j'imagine que toi-même, en termes de ressenti, ça a dû être quelque chose d'assez énorme quand tu as été contacté.
Ouais, ça a été... Je m'y attendais pas du tout quand j'ai été contacté déjà dedans. Et après, ouais, ça a été l'énorme fierté d'y accéder, d'avoir été recruté. L'entraînement que j'ai reçu, c'est vraiment la meilleure formation au monde pour les arbitres et pour les catcheurs, hein, bien sûr. Au niveau entraînement, je trouve que c'est incomparable. Donc c'est absolument incroyable et exceptionnel que j'ai réussi à accomplir ça. Si tu m'avais dit ça quand j'avais 18 ans et que je suis allé à mon premier entraînement catch, je crois que j'y aurais jamais cru, tu vois.
Alors explique-moi un peu le process. Dis-moi comment ça se passe. C'est-à-dire, toi, t'as été une catcheuse aussi également, mais t'es une arbitre au niveau européen et tout ça. Comment une femme comme toi, elle est contactée par la WWE et après, comment se passe en fait ta formation, si je puis dire ça comme ça, une fois que t'es arrivée sur place à NXT UK?
Alors mon cas était un peu particulier parce que en fait moi j'ai eu des soucis de santé et en 2016 j'ai pris ma retraite de l'arbitrage et j'ai désactivé tous mes réseaux sociaux. Tout début 2018 je me suis fait opérer, ça allait beaucoup mieux, blablabla. Et en 2019, juste par curiosité, j'ai réactivé mes réseaux sociaux, notamment mon compte Facebook. Et 2 jours après, j'avais un message sur Facebook d'un producteur de NXT UK qui me demandait si d'un, j'arbitrais toujours, et de deux, si j'habitais toujours en Angleterre et si je voulais venir pour un try-out. Donc voilà, j'ai un peu été prise au dépourvu, parce que je ne m'y attendais pas du tout après 3 ans d'inactivité. Donc j'ai dit bien sûr, et je suis remontée sur le ring pour la première fois en 3 ans à la WWE, ce qui est assez exceptionnel. Et en fait, mon try-out... Pardon ?
Rien, vas-y, je t'écoute.
J'ai cru que tu posais une question. Donc, mon tryout, ça s'est passé qu'en fait, ils m'ont invité à une semaine d'entraînement au centre de performance de Londres, où en fait, j'étais dans le ring toute la journée, puisque à l'époque, il y avait au moins entre 4 et 6 groupes qui tournaient en permanence sur les rings, donc qui faisaient des drills, des mini-matchs et tout ça. Et en fait, j'étais dans le ring toute la journée pour arbitrer, et puis j'avais toute l'équipe arbitrale qui me donnait des conseils, du feedback, tout ça. Et après, ça s'est soldé par 2 jours d'enregistrement de NXT UK à Glasgow. Et en fait, le deuxième jour, ils m'ont donné le dark match de la soirée pour voir ce que ça donnait en live et avec caméra.
D'accord. Alors, on t'a demandé un gros investissement physique, j'imagine. Il y a une grosse préparation physique pour les arbitres aussi ?
Oui. Alors en fait, ce qui était super dur, comme je dis, c'est que j'avais pas arbitré pendant 3 ans. En fait, j'avais été opérée 6 mois avant, donc je venais à peine de reprendre la muscu et le cardio. Donc honnêtement, physiquement, ça a été très, très, très dur. La semaine d'entraînement, j'étais lessivée. Après, quand tu as une bonne condition physique, bon, c'est dur quand même, mais ça l'est un peu moins, quoi. C'est clair qu'on n'attend pas de nous la même chose qu'on attend des catcheurs, mais il faut quand même une super condition physique, parce que quand on est au PC, on est attribué à un groupe et on fait exactement le même entraînement, le même conditionnement physique que les catcheurs.
Ah ouais, t'es vraiment, tu suis le même programme que les catcheuses et catcheurs.
Ben c'est ça, en fait, t'es attribué à un groupe et tu es avec ce groupe toute la journée. Donc, quand t'as muscu, t'as muscu. Quand t'es dans le ring, t'es dans le ring. Quand t'as de l'analyse de match, t'es avec eux et voilà.
D'accord, bah effectivement, ouais. Et alors, du coup, tu fais ce dark match et derrière, qu'est-ce que disent les officiels ?
Très bon retour. Très bon retour. À la fin, je vois un peu tout le monde dans le hall de l'hôtel, donc je vais dire merci à tous les entraîneurs, les producteurs, tout ça. Et j'ai notamment Coach Bloom qui me dit merci, à très bientôt. Donc je me dis oh là là, ça sent bon, c'est bien. et puis bah voilà. Après petite soirée avec tout le monde à Glasgow, tout le monde est parti c'était une boîte métal et on a fini au casino. Voilà, petite anecdote. Et puis après voilà, le lendemain tout le monde est reparti. Donc moi à l'époque je travaillais en Angleterre à côté, j'étais enseignante dans un établissement pour autistes. Donc je reprends ma petite vie et puis j'attends un appel ou un email, tu vois, qu'on me dise bon bah tu reviens. Et en fait, ça a pris pas mal de temps. Alors, pourtant, j'avais eu de très, très bons retours. Et en fait, ça a mis plus de temps que prévu, si bien qu'entre-temps, j'ai redéménagé en France. Qu'avec Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant, j'ai commencé à enregistrer les commentaires pour AEW. Et le fameux jour où on est en studio avec Alain et Norbert, je reçois un email de la WWE qui me dit « Est-ce que tu peux venir ce week-end ?» En sachant qu'on était le jeudi, quand même. Et je tape. Ouais. Et du coup, ils m'ont rappelé et c'était lancé.
C'était lancé. Alors du coup, comment ça se passe ? Tu arrives, tu t'installes, ton camp de base, c'était pour la NXT UK, c'était comment ? Tu étais installé à côté du Performance Center ou de l'aréna où se passent les shows ?
En fait, à l'époque, c'était avant le Covid, donc notre semaine d'entraînement, elle était à Londres, au centre de performance, donc on avait un hôtel à côté, et en fait, les enregistrements de télé ont tourné un peu partout en Angleterre, enfin même au Royaume-Uni au sens large, puisqu'on a fait l'Écosse et tout ça. Donc après, c'était les vendredis, samedis, les enregistrements à l'époque, donc après, on avait les hôtels dans la ville en question, quoi. Et à ce moment-là, j'ai pas redéménagé en Angleterre, si tu veux.
Ah ouais, t'es resté sur Londres, t'avais ton pied à terre, entre guillemets, à Londres.
Ouais, si tu veux, ils prenaient en charge l'hôtel, les déplacements.
Ouais.
À la base, ils voulaient que je revienne vivre en Angleterre. Pour moi, c'était pas possible vis-à-vis de ma mère qui avait des soucis de santé, donc je leur ai expliqué la situation. Au début, c'est pour ça qu'ils m'ont pas donné de contrat tout de suite, d'ailleurs, parce qu'ils m'ont dit, nous, on te signe, mais que si tu reviens vivre en Angleterre. Donc j'ai dit non, et au final, en janvier 2020, ils m'ont envoyé mon contrat sans me demander de déménager.
Oh, ok, donc du coup, tu attaques à NXT UK, tu as fait ce dark match, j'imagine que ça a dû te marquer, c'est ton tout premier match en direct à la télé, ça doit être un moment fort pour toi, même si t'es une, j'ai envie de dire, une vieille routière des rings de catch, mais là, fatalement, se retrouver dans la Big League à NXT UK et arbitrer ton premier match officiel, ça devait être quelque chose de fort à l'intérieur, je pense.
C'était l'un des moments les plus stressants de ma vie, je pense. Surtout juste avant de passer le rideau pour faire le chemin jusqu'au ring, j'ai Coach Bloom qui me dit « Don't fuck it up ». Donc, ne merde pas. Donc,
ouais, merde pas.
le bon coup de pression, tu vois. Donc, je commence à marcher. Et là, ben, encore une fois, je n'avais pas arbitré de match devant public depuis 3 ans. Et là, j'arrive dans l'arène, ouais. Dans l'arène à Glasgow. Je ne sais plus combien de milliers de personnes il y avait. Bon, ce n'était pas non plus comme le main roster où tu as 10, 15 000 personnes, hein, mais il y avait quand même plusieurs milliers de personnes. Donc, le coup de stress énorme. J'ai l'impression qu'il va éclater. Je monte sur le ring, j'ai du mal à respirer et tout, et là, la musique du premier catcheur se lance, et pouf, plus de stress. Tout va bien.
Tu te souviens, c'était qui les deux catcheurs que tu arbitrais pour la première fois ?
Alors, c'était Kenny Williams contre BT Gunn, qui lui aussi avait un try-out ce jour-là, du coup.
Ah, donc, du coup, tu sors de ce match-là, et alors là, c'est quoi la réaction des officiels là ?
Bah en fait, tout le monde est super occupé backstage, donc en fait, t'as pas le temps d'avoir du feedback détaillé, donc tu vas juste voir ton producteur, ton agent, tu lui serres la main, tu lui dis voilà, est-ce que tout s'est bien passé ? Oui, très bien. Et après, t'essaies de les choper un peu plus tard pour avoir du feedback. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'était Dave Taylor qui était le producteur de ce match, donc je suis allée le voir tout de suite en disant est-ce que ça s'est bien passé pour toi ? Il m'a dit ouais, super. Et puis voilà, j'ai eu des sourires et des pouces en l'air de la table des producteurs. Et puis voilà, après c'est vraiment dans le hall de l'hôtel que j'ai pu essayer de leur demander un petit peu plus et qu'on m'a dit que s'était bien passé, quoi.
Ok, donc du coup tu t'es mise en confiance en fait quand même dès le début de ton run, quoi.
Ouais. C'était bien. Ça m'a rassurée, mais après, comme je t'ai dit, après, pendant quelques mois, j'ai un peu psychoté en me disant, bah mince, pourtant tout le monde m'a dit que ça s'était bien passé, et puis il ne me rappelle pas. Mais bon, apparemment, c'est classique, c'est courant, ça arrive d'attendre jusqu'à ce qu'il se décide.
Ouais, Tristan m'avait expliqué la même chose, hein, pareil. Hein, ils te font venir, ils te font faire des essais, voire même des matchs, et puis finalement, ils te laissent de côté un peu pendant plusieurs mois, puis bam, tout d'un coup, un jour, il y a un mail ou un coup de téléphone, et puis bam, tiens Tristan, est-ce que tu veux venir faire le Cruiserweight classique, quoi ?
C'est ça.
c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Alors du coup, voilà, tu t'installes véritablement dans le programme de NXT UK. Alors à ce moment-là, moi, j'ai quand même le souvenir bien précis de tout l'univers français de l'internet passionné de catch, qui était quand même un peu comme des fous, hein, d'avoir Artemis à NXT UK, sachant qu'en plus on a Amal qui est arrivé aussi par la suite et Mila aussi qui a été prise en trial out. Donc vraiment grosse réussite, j'ai envie de dire, du côté féminin, du côté du catch féminin, quoi, avec la présence de ces trois filles sur NXT UK. Alors du coup, comment se passe ton installation au fur et à mesure? Là je parle de l'installation véritablement au sein du show, et comment tu peux nous expliquer un peu les coulisses? Comment ça se passe finalement la vie d'un arbitre dans un show de catch hebdomadaire à la télévision américaine? Enfin, en l'occurrence, britannique.
Ben en fait, au début, il faut faire ses preuves. Donc, en général, par exemple, sur un taping, sur 2 jours, on enregistre 6 épisodes. Quand tu commences sur les 6 épisodes, on va peut-être te donner 1 ou 2 matchs. Et à chaque taping, ben en général, si tu progresses et que ton arbitrage est satisfaisant, on te donne un match de plus à chaque fois. Et là, voilà, les derniers temps où j'y allais, à chaque fois, j'avais 6 matchs, donc un match par épisode. Donc comme ça, tu es à la télé toutes les semaines. Après, l'organisation, sur les jours de taping, exactement, nous, les arbitres, on arrive en premier parce que c'est nous qui nous occupons du ring. Donc tout ce qui est installation, maintenance, les cordes, tout ça, vérifier qu'il soit nickel, que la bâche soit pas salie, qu'il n'y ait pas de trous, ce genre de choses. Ensuite, y a tout l'aspect production, répétition des caméras, ce genre de choses, ils se calent, les musiques, les lumières, tout ça. Et puis après, le show commence. Après, pendant 2 ans, ça a été assez particulier puisqu'on enregistrait à huis clos. Donc, on n'avait pas de contraintes de temps vis-à-vis du public, par exemple. On n'avait pas à se dire, bon, ben, les portes ouvrent à 18h, faut que le ring soit prêt avant ou ce genre de choses. L'organisation était différente. Et là, depuis le retour du public, ben, en général, c'est ouverture des portes 18h. Le show est à 18h45. 18h45, il y a toujours un ou deux dark matchs. tester ceux qui sont en try-out. Et 19h, le show commence et en général, on enregistre 3 ou 4 épisodes par jour.
La vache, c'est un gros. Ouais, ouais, c'est intense, quoi. 3-4 épisodes par jour. Ouais. Ah ouais, ouais. Tu passes quoi? Tu passes 6, 7, 8 heures sur les enregistrements de show?
Alors, sur la partie catch en elle-même, non, parce qu'après, dans les épisodes, tu as beaucoup de séquences qui peuvent être filmées au PC ou backstage ou des promos, ce genre de choses. Donc, c'est pas quand je te dis qu'on filme 4 épisodes, c'est pas forcément 4 heures de show de catch. Ça va être tous les matchs qu'on doit avoir pendant ces 4 semaines, on va les filmer, mais ça sera pas forcément 4 ou 5 heures, quoi. Après, voilà, comme je dis, les journées sont très longues puisqu'on arrive le matin pour le ring et qu'après, alors le premier jour, c'est pas trop dur après les enregistrements parce qu'on a juste à desserrer les cordes pour le ring, mais par contre, le deuxième jour, et ben après le show, faut qu'on démonte le ring, donc là, forcément, ça dure beaucoup plus longtemps.
Donc, tu es impliqué tout autant en fait, dans la construction du show que dans tout ce qui concerne la technique. Voilà, en fait, il faut que tu sois multitâche, quoi. Il faut savoir monter, démonter un ring. Je pense que beaucoup de gens en fait, n'imaginent pas tout ce rôle qu'ont les arbitres à ce niveau-là.
Ben, c'est ça. Et honnêtement, moi, avant d'être à la WWE, je ne pensais pas que c'était comme ça. Enfin, je savais qu'il y avait toujours forcément un arbitre qui était ring crew, ce qu'on appelle. Et moi, je pensais que c'était juste une personne, du coup, qui s'occupait du ring. Et en fait, la réalité des choses, en tout cas à NXT UK, c'est qu'on est tous les quatre, et tous les quatre, on s'entraide et on monte et on démonte le ring en équipe, quoi.
D'équipe, ouais. Ouais, c'est un vrai travail d'équipe, quoi. C'est bien parce que ça rejoint totalement notre invité de la 15e édition du Talk Too Much. En l'occurrence, Stéphane Nogues, c'est en ligne. C'est très bientôt en ligne. Je vous conseille d'aller écouter ça et où il explique justement ce travail d'équipe, si tu veux, à tous les niveaux, que ça soit la technique, dans le ring, etc. Sur le fait que les catcheurs sont des partenaires avant tout et toute l'équipe, toute la production qu'il y a autour d'un show de catch, même d'un simple show de catch en France. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse rappeler ça. Alors, du coup, t'es installé à NXT UK. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, quoi? Quand t'es dans un enregistrement comme ça, c'est long quand même, 7-8 heures. Et tu arbitres quelques matchs au cours de ces 7-8 heures. Donc, t'as un rôle défini en coulisses pendant ce temps-là? Ou comment ça se passe? Ou c'est juste une espèce, t'es en sas d'attente et puis t'attends, quoi?
Alors non, nous les arbitres, on reste toujours en ce qu'on appelle gorilla, donc c'est là où sont les projecteurs, ouais, avec les écrans, parce que si jamais il y a un problème, par exemple quelqu'un qui se blesse, il faut qu'on puisse intervenir tout de suite. Donc nous, avec l'équipe médicale, on est ceux qui allons intervenir. Également, on s'assure que le match d'après est dans les parages, qu'on n'ait pas besoin de les attendre ou d'aller les chercher en courant au dernier moment. Donc en fait, ça va être ça notre rôle, quoi. Et puis si jamais un producteur a besoin de quelque chose, a besoin de parler à quelqu'un, on va le chercher et puis on l'amène en gorilla, quoi.
Ouais, ouais, ok, d'accord. Ouais.
On a jamais de pause, en fait, tout le temps sur le qui-vive. Les jours d'enregistrement, c'est non-stop.
Donc en fait, vous êtes au soutien un peu des collègues tout au long des enregistrements, et si jamais il y a un problème, vous pouvez pallier pour remplacer ou pour pallier à tout problème qui pourrait subvenir durant l'enregistrement, quoi. Et alors du coup, c'est beaucoup de pression, beaucoup de tension, ou au contraire, tu as vécu ça toi de manière super zen?
Non. Super zen, c'est vraiment pas le mot que j'utiliserais pour décrire mon expérience à la WWE. On est tout le temps sous pression, en fait. Et au PC, c'est plus relax parce que tu t'entraînes, il y a une bonne ambiance en général. Tu fais ce que t'aimes, tu fais de la muscu, tu fais du catch et tout. Les journées télé, c'est hyper stressant. Du jour au matin, tout le monde est sous pression. Du coup, tout le monde parle un peu sèchement. C'est vraiment une ambiance assez particulière. Il y a des contraintes de temps. Tout le monde est speed. Et puis, beaucoup de pression.
Pression, ouais. Et tu sentais que les officiels, en fait, eux-mêmes vous mettaient la pression, ou cette pression, c'était vous, les workers, qui avaient tendance à vous la mettre vous-même, quoi?
Alors, les deux. Je pense que tout le monde est stressé parce que tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a peur pour son spot et tout ça. Et même les officiels, honnêtement, les producteurs, je pense qu'eux-mêmes sont sous pression parce que, honnêtement, la WWE, du jour au lendemain, un claquement de doigts, quelqu'un prend une décision, c'est fini, tu vois. Donc même les producteurs sont sous pression parce qu'ils ont des personnes au-dessus qui, voilà, si jamais il y a quelque chose qui se passe pas mal dans le match, peuvent dire eh ben, c'est de ta faute en tant que producteur, et puis bye bye, quoi. Donc honnêtement, tout le monde est sous pression.
D'accord, ouais, donc c'est ambiance de travail studieuse et un peu tendue quand même malgré tout, quoi.
Ouais.
Petit à petit, bah, tu t'installes dans le programme. Moi, j'ai souvenir d'avoir retweeté, je m'occupe du Twitter de Catch-Up, et d'avoir retweeté pas mal de choses te concernant et tout ça. Finalement, moi, je trouve qu'au fur et à mesure, tu t'es vachement installé dans le programme, t'arbitrais très, très régulièrement. À ce moment-là, le retour des officiels, ou plutôt même pas forcément le retour des officiels, mais toi, en fait, comment tu ressens la chose ? Tu te dis que t'es parti pour t'installer un long moment, ou tu restes dans une sorte d'hésitation, quoi, où tu sais pas trop où ça va te mener, ou tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'était un plan sur du long terme, ou est-ce que t'as pris ça comme une expérience qui allait être courte, mais dont t'allais profiter à fond ?
Alors, c'est complexe.
J'imagine.
Ouais, par rapport à la première partie de ta question, moi du coup j'avais en général 6 matchs par taping, donc j'étais à la télé toutes les semaines.
Oui.
Parce qu'au bout de quelques mois, j'avais fait mes preuves, donc j'avais des matchs dans chaque épisode. Ensuite, honnêtement, c'était une ambiance qui me convenait pas forcément, donc ça faisait un moment que ça me travaillait quand même. Je savais que mon contrat arrivait à expiration là cette année. Et voilà, je me posais la question de voilà, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas forcément hyper envie de rester. Les 6 derniers mois, je m'étais même posé la question de savoir si je demandais à être libérée de mon contrat ou pas. Au final, je l'ai pas fait. Je me suis dit bon, je vais vraiment faire, je vais vraiment aller jusqu'au bout de mon contrat, voir si les choses changent un peu dans le bon sens, en sachant qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis le départ de Triple H, depuis NXT 2.0, ce genre de choses. Et au final, il y avait pas mal de choses qui ne me convenaient plus et j'avais pas mal envie de reprendre ma liberté. Donc finalement, c'est ce que j'ai fait.
Ouais, ça vient de toi, en fait, plus ce départ. Finalement, la WWE, est-ce qu'elle a cherché à te garder ? Ils t'ont proposé des choses ou ils ont laissé faire le cours des choses ?
Alors, au départ, mon contrat a expiré. Ils m'ont proposé un nouveau contrat de 2 ans. Les conditions ne me convenaient pas, donc on en a parlé. Ils m'ont fait une extension de mon contrat actuel de 2 mois, le temps d'essayer de négocier ensemble. Et au final, ils ont rien proposé de mieux, donc ça s'est terminé.
Ok, d'accord, ouais, t'étais pas raccord avec les conditions qui t'étaient proposées, quoi, et du coup, t'as préféré arrêter là, quoi. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi, humainement, quoi ? T'as pas eu un peu le cœur un petit peu brisé, quand même ? Parce que t'as quand même atteint un espèce de graal, bosser à la WWE, en plus sur la branche qui est gérée par Triple H. Ça, fatalement, j'imagine que tu devais être un peu aussi une fan de catch quelque part, et ça devait être un peu peut-être quand même une petite forme de déchirement quand t'es parti de là-bas.
Alors pas vraiment, honnêtement.
Non ? Ah ouais ? Ah, ah écoute, ça a été plus délicat en fait que ce que je pensais alors.
Oui, les derniers mois ont été compliqués. Donc, non, au contraire, j'ai été très contente de partir. Là où ça a été dur humainement, c'était de quitter tout le monde, en fait, parce que j'ai créé des amitiés très très fortes avec certains catcheurs et catcheuses et l'équipe arbitrale, bien sûr. Enfin, voilà, on est comme, c'est mes 3 frères, hein, on passait tout notre temps ensemble. Donc, ça, c'est la partie compliquée de la chose. Après, honnêtement, les types de contrats sont vraiment très restrictifs pour pas beaucoup de positifs à côté. Donc non, je suis ravie d'avoir retrouvé ma liberté, de pouvoir faire plein de choses à côté. Après, bien sûr, je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixé à la WWE. Si j'étais restée plus longtemps, j'aurais pu continuer de travailler pour atteindre ces objectifs. Malheureusement, la situation a fait que
Je...
Voilà. Pour mon bien-être, il fallait que je parte. Donc,
D'accord, ouais. C'était toi qui te sentais pas et du coup, tu as préféré arrêter. Et du coup, cette pression que tu avais là, je sens bien que, ouais, effectivement, ça avait l'air de te toucher. Et c'était quoi? C'était dû parce qu'avec les officiels, l'ambiance n'était pas top. Ou peut-être que tu n'étais pas d'accord aussi sur un point de vue salarial, c'est aussi tout à fait possible.
Oui, ça a joué en grande partie, hein, je te cache pas. Après, non, je m'entendais bien avec les producteurs, donc c'est juste c'est le manque de considération de l'office au sens général, mais ça va plus être au niveau États-Unis, avec lesquels on n'est pas vraiment en contact en fait, vis-à-vis du corps arbitral. C'est plus ça que vient notre frustration, et là je dis nous parce que c'est vraiment, enfin tous les arbitres de NXT UK, on le ressent. Et voilà, moi, j'ai pris la décision de ne pas rester. Après, voilà, je ne sais pas ce que les gars vont faire dans quelques mois quand leur contrat va expirer, mais je leur
Ah
souhaite que
ouais.
les choses changent, honnêtement.
Ah
Peut-être qu'il
ouais,
fallait
donc.
que quelqu'un parte pour que voilà, qu'ils se rendent compte que ce n'était pas acceptable, mais bon, on verra.
Ouais, il fallait peut-être une prise de conscience avec le départ de certains pour que les autres se disent, oulala, il y a peut-être un
Ouais.
problème, quoi. Ouais, je comprends, ouais, ça peut être effectivement compliqué, quoi. Bon, au final, tu fais une expérience quand même assez incroyable et tu as eu la chance quand même de bosser là avec des super workers à NXT UK. Il y a un très beau roster, ma foi. Alors là, évidemment, on a un peu la crème du catch européen, et on avait la crème des arbitres, fatalement. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir, comme belle anecdote? Voilà, finalement, on a un peu évoqué le côté un peu négatif là sur la fin de ton run. Mais si on prend ton run dans son entièreté, comment t'as voilà, est-ce que tu as gardé des amitiés fortes? Est-ce que quelle était l'ambiance générale finalement avec tous les workers au sein des NXT UK?
Ouais, on va se recentrer sur le positif. ouais, non, enfin, les meilleurs moments, c'était vraiment au PC, quand voilà, quand t'es avec des groupes, parce qu'en général, on essaye de changer les arbitres. Donc, un mois, t'allais être avec un groupe, avec le groupe des filles, par exemple. Le mois d'après, avec le groupe des tag teams. Celui d'après, un peu les high flyers, ce genre de choses. Et voilà, moi je me souviens que enfin, l'un de mes meilleurs souvenirs, ça a été un mois où j'étais avec plutôt les poids lourds, et notamment les Écossais. Donc il y avait les frères Coffey, il y avait Wolfgang, il y avait Shaw Samuels, je crois qu'il y avait Noam aussi.
Il y avait Noam Dar, ouais.
Ouais. Et en fait, du coup, je faisais covoit avec eux, on passait toute la journée au PC. Après, ils allaient au salon de tanning. Donc, forcément, vu que j'avais fait du covoit avec eux, je les accompagne et tout. Et franchement, forcément, tu lis des liens très très forts quand tu passes quasiment H24 avec des gars comme ça. Et ouais. J'espère que je les reverrai quand même pour leur dire au revoir vraiment. Parce que...
Tu as eu l'occasion de dire au revoir à tes collègues?
Non, parce que
Oh.
voilà, la WWE, ils sont. Comment dire? En fait, j'avais un dernier taping de prévu avant la fin de mon extension. Et ils m'ont appelé genre 2 jours avant pour me dire, enfin, négocier encore une fois en me demandant si j'acceptais le premier contrat qu'ils m'avaient proposé. Où j'ai dit non. Et ils ont dit, nous, on ne te proposera pas mieux. Donc, ce n'est pas la peine de venir la semaine prochaine. Voilà.
Ouais.
Donc, en sachant que moi, j'avais dit à tout le monde, j'avais un peu prévenu tout le monde que il était fort possible que ce taping soit mon dernier taping et que du coup, on allait en profiter pour se dire au revoir correctement, sortir ensemble au resto ou je sais pas, faire une soirée quoi. Et du coup, ils m'ont enlevé ça au dernier moment. Donc voilà. Donc c'est super frustrant parce que
J'imagine.
J'ai pas eu l'opportunité de le dire et voilà, pas mal de personnes étaient surprises aussi parce que du coup j'ai posté le visuel disant que j'étais disponible pour des bookings avec le logo ex-WWE. Et donc là j'ai plein de catcheurs qui m'ont envoyé un message en me disant mince, qu'est-ce qui se passe? Tu viens pas la semaine prochaine et tout. Et donc j'ai expliqué la situation et c'est vrai que c'est. Voilà, malheureusement c'est le genre de choses qu'ils font.
C'est leur pratique, quoi.
Voilà, c'est un peu mesquin, je trouve, mais bon, c'est comme
Tu
ça,
as là.
on va pas les changer, hein.
Ouais, quand même, comme. au sein des divisions, quoi. Mais bon, on sait, je pense que de toute façon, tous les gens qui nous écoutent, tout le peuple catch-up à l'habitude, on sait qu'à la WWE, ça valse pas mal. Il y a beaucoup de turnover et qu'il y a des pratiques. On a tendance un peu à virer les catcheuses, catcheurs et arbitres et compagnie de manière assez rapide et sans beaucoup plus d'explications. Donc, on se rappelle du triste épisode du sac poubelle envoyé à Mickey James, quoi.
Ah ouais.
Donc, je trouve que ça montre un peu la mentalité. C'est le problème, hein, un peu. Quand t'es la big league, quand t'es le plus gros marché au monde, bah, quelque part, tu te permets des choses que peut-être d'autres fédés ne se permettraient jamais avec les workers. Et c'est un petit peu dommage que t'en aies un peu subi les conséquences. Je sens que ça t'a affecté et je le comprends bien d'ailleurs. Mais, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est, si on met un peu à part ça, l'expérience que tu en as retirée, là, j'imagine que c'est quelque chose qui va te servir gravement pour la suite dans ta carrière au sein du catch, quoi.
Mais c'est sûr, l'entraînement que j'ai, la formation que j'ai reçue est incomparable. Enfin, c'est... Voilà, quand je suis arrivée, il y avait des choses, c'était à des années-lumière de ce que j'avais pu pratiquer avant sur les rings. Et ça, c'est sûr que... voilà. La chose que j'en retirerai, c'est la formation et le fait que je suis une bien meilleure arbitre maintenant que je n'étais avant d'être allée à la WWE, ça c'est sûr.
T'as chopé du booking là depuis que t'as quitté NXT UK là, tu t'es remis à bosser un peu dans différentes fédés.
Oui, mais ouais, ben j'ai fait une petite apparition à la RIX, j'ai la HCP dans le sud. Là, dans 2 semaines, je vais en Espagne. Et voilà, après j'ai d'autres choses qui n'ont pas encore été annoncées un peu partout en Europe, donc ouais, la réponse à mon poste a été quand même très positive, donc ça fait plaisir.
Parce que je pense que tu t'es fait un joli nom là depuis pas mal d'années. Donc il n'y a pas de raison. J'aimerais bien, moi, par exemple, te voir du côté. Je suis beaucoup parce que Tristan est passé chez nous et moi je suis beaucoup Tristan dans son run à la WXW à l'heure actuelle. Je t'avoue que je serais assez satisfait de te voir débarquer à la WXW.
Ouais, c'est ce qui est pour moi, là,
en mettant NXT UK à part, qui est certainement la plus grosse fédération européenne actuellement, avec le plus gros impact, et donc ça serait chouette de t'y retrouver. Alors en attendant, j'avoue que je reste un petit peu curieux sur NXT UK. T'as quelques... quand même dans ces moments de tension et ces moments de boulot intense à NXT UK, j'imagine que quand même t'as dû vivre quelques moments un peu sympas, quelques anecdotes un peu croustillantes. Ça a dû être pas mal quand même.
Oui, oui, oui. Après, je sais pas quel genre d'anecdote... tu veux que je te raconte
Je sais pas, moi, est-ce qu'il t'est arrivé des trucs un peu bizarres? Est-ce que t'as eu des botches, tout simplement? Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations où tu t'es dit « Merde, ça déconne !» Soit les catcheurs avaient déconné, soit c'est toi qui avais peut-être un temps de retard, je sais pas. Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs un peu étranges comme ça, quoi?
Alors, il m'est arrivé un truc qui n'était pas du tout prévu. C'était un dark match et c'était le try-out de Shaw Samuels, avec qui j'avais beaucoup travaillé en indie avant. Pareil, j'étais super contente de le retrouver, tout ça. Et on commence le match, il y a un pin, je compte 2. Là, il se relève, il commence à crier, normal, c'est son personnage. Et là, il me pousse. Et à la WWE, tu ne peux absolument pas toucher l'arbitre, quoi. C'est vraiment le no-no, quoi. Et du coup, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, il me repousse. Donc, je disqualifie, tu vois, obligé. Et là, je me sentais trop mal, parce que je me suis dit, punaise, c'est son try-out, il me pousse, je le disqualifie. Ben, c'est lui qui a merdé, si tu veux, parce que t'es pas censé toucher l'arbitre. Et je me dis, mince, il a complètement grillé son try-out et tout. Et du coup, on retourne backstage, on commence à parler au producteur. Moi, je me sentais trop mal pour lui. Et là, ils me regardent tous avec un grand sourire. Il y a le producteur qui arrive, qui me fait, c'est bien. Et là, Shaw qui me dit, je suis désolé, il voulait que je te teste. Je dis, quoi? Donc, en fait, il voulait voir comment j'allais réagir. Et au final, Shaw était très ami avec le producteur. Donc, au final, son try-out s'est très, très bien passé. Et son rôle, c'était de me tester pour voir si j'allais disqualifier ou pas.
Et voilà. Bilou, d'accord. Ouais. Ok, ouais, je vois les méthodes, quoi.
Ouais. Donc, bon, au final, tout s'est bien passé. Shaw a été signé. Moi, j'ai fait mes preuves. Donc, à partir de ce moment-là aussi, j'ai eu beaucoup plus de matchs. Donc, ouais, c'est le genre de petite méthode, de petit test.
De la WWE, ouais. Est-ce qu'il y a des catcheurs ou des catcheuses avec qui t'as vraiment kiffé de travailler, quoi?
J'aimais beaucoup travailler avec Sam Gradwell. Il était super, on s'entendait super bien et j'avais arbitré Sam Gradwell contre Ilya Dragunov en match sans disqualification. Et franchement, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs dans les matchs que j'ai arbitrés. C'était top, c'était mon premier match à stipulation en plus.
Ouais, en plus, il y a Dragunov, quoi,
Ah
pas
ouais, non,
n'importe
mais
qui.
Ilya Dragunov en ODQ, donc ça y allait.
Ouais. C'est un monstre, lui. Il est stiff as fuck et il est incroyable, quoi. Vraiment, son match face à Walter, pour moi, ça reste un des trucs énormes. Je crois que c'était l'année dernière. C'est un truc de fou, quoi. Et chez les filles?
En anecdote ou avec qui je m'entendais bien?
Ouais, je sais pas, ouais,
Les
les deux.
deux. Je m'entendais bien avec à peu près tout le monde. Après, forcément, avec Amal, on passait pas mal de temps ensemble, puisque française et que notamment la première quarantaine, on l'avait passée ensemble. Après le Covid, ils ont mis une quarantaine sur la France. Ils nous avaient pris un appart toutes les deux pour qu'on fasse notre quarantaine avant de rejoindre les autres. Voilà, j'ai du mal à te chercher, à te trouver des anecdotes spontanées comme ça, mais.
Mais alors du coup, en plus, tu as vu l'arrivée d'Amal à NXT
Ouais.
UK, qui est en train de faire sa place aussi, tout doucement, qui a eu le droit à une belle ovation au WWE Paris, là, il y a peu. Comment ça se passe dans ces cas-là? J'imagine il y a une sorte de fraternité, ou en tout cas de sororité française qui s'est installée quand Amal est arrivée, ou au contraire, enfin, pas forcément au contraire, mais où est-ce que toutes les deux, en fait, vous aviez chacun vos trucs à vous occuper, et que vous aviez pas forcément le temps de veiller, j'ai envie de dire, l'une sur l'autre.
Alors de mémoire, quand elle est arrivée, on n'était pas dans le même groupe. Je crois que j'étais pas avec le groupe des filles quand elle avait fait sa semaine d'entraînement. Après, par contre, à l'hôtel, on était ensemble, donc voilà, tous les soirs, c'était un peu débrief de la journée et voilà, conseils d'un côté comme de l'autre sur les choses à gérer ou comment se tenir à l'entraînement, ce genre de choses. Et pareil avec Mila quand elle était venue, du coup on a passé pas mal de temps toutes les trois pour que sa semaine de tryout se passe le mieux possible.
Ouais, tu le sens bien, c'est quoi ton ressenti là sur Amal justement là? T'as l'impression qu'elle est totalement intégrée, que là elle est partie pour rester?
Ouais. Je pense que
Ouais.
ça a été un petit peu dur au début. Je pense que ça l'a frustré un peu parce que tu vois, c'était un peu le stéréotype de la française, il lui faisait perdre des
Ouais.
matchs, mais là pour le coup, elle a eu un bon run où elle gagnait tout. Et bon, là je t'avoue que depuis que je suis partie, j'ai arrêté de regarder, mais j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, elle est pas mal mise en avant par la Fed, donc ça a l'air quand même très positif, quoi.
Ouais, à l'heure actuelle, moi écoute, pour avoir regardé dernièrement, de toute façon, oui, elle passe quasiment toutes les semaines à la télé, elle gagne des matchs. Bon, là, elle a perdu un match chaque team dernièrement, mais c'est anecdotique. Mais c'est vrai que je pense que ça a été un désespoir, c'est le cas de le dire avec Amal, mais ça a été l'un des espoirs. En fait, le fait de devoir arriver toi et Amal, et bon, Mila, ça a été peut-être un peu plus rapide. Mais je pense que ça a donné aussi une sorte de vague d'espoir de la part des fans français. Est-ce que tu l'as ressenti ça?
Oui, on a eu pas mal de retours. C'est vrai qu'à un moment, il y a pas mal de gens qui disaient que c'était les femmes qui portaient le catch français. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, si, il y a eu cette dynamique et c'est clair qu'on aimerait que ça continue, honnêtement, à la WWE ou ailleurs, bien sûr. Parce qu'après, voilà, sans être forcément à la WWE, il y a des exemples comme Tristan de catcheurs français qui ont énormément de succès en ce moment, sans être dans une grosse fed.
Ah bah ouais, Tristan, c'est clair qu'il déroule en ce moment de manière assez impressionnante. Champion au WXW, je le rappelle
Double
pour notre
champion,
public.
ouais.
Double champion, ouais, two times. Donc c'est quand même quelque chose, quoi. Donc du coup, ouais, c'était un pas. Ah, je suis assez, c'est bien, je trouve ça super intéressant parce que Là, on a une vision des choses qui change un peu d'habitude et je trouve que c'est vraiment parfait, quoi. Alors, du coup, alors à NXT UK, il n'y a pas véritablement de système de pay-per-view. Bon, il y a eu des NXT à Blackpool ou à Cardiff. Est-ce que ça, c'était pas un truc peut-être qui t'a manqué, peut-être que tu aurais aimé arbitrer en pay-per-view?
Oui. En fait, avant le Covid, on avait les takeovers, donc c'était nos pay-per-view à
Ouais.
nous. Moi, j'ai fait le takeover de Blackpool, mais du coup, en tant que médic, donc j'ai eu une petite intervention dans le main event où il a fallu que j'aille m'occuper de l'arbitre qui était blessé, qui s'était pris un kick de
Ouais.
Walter. Donc ouais,
Ah, aïe.
ça c'est un truc que j'aurais aimé faire, arbitrer en takeover, ou même, enfin voilà, partir à NXT parce qu'avant le Covid, c'était ce que je devais faire. Il devait m'envoyer là-bas, je devais arbitrer toute la semaine à Access. Et malheureusement, voilà, mais les frontières ont fermé 2 jours avant mon vol. Donc ouais, je pense que c'est pas tout arrive pour une raison. Donc j'essaie de me dire que si ça s'est pas fait, c'est parce que autre chose doit se faire à la place. Mais j'avoue que j'aurais quand même bien aimé vivre ce genre d'expérience.
A passé combien de temps là-bas au final?
À NXT UK?
Ouais.
J'y ai passé 3 ans en tout,
Ouais, quand même, hein, quand même,
dont
ça fait.
du coup 2 ans et 2 mois sous contrat, parce que les mois d'avant, j'étais pas sous contrat, ils me faisaient venir à la semaine.
Ah ouais, en freelance, quoi.
Ouais.
Ah ouais, donc grosse, grosse expérience, parce que ça fait un sacré paquet d'années que t'es dans le milieu, quoi.
Oui.
Donc, quelque part, pour toi, c'était une forme de concrétisation, j'ai envie de dire.
Oui, bah bien sûr. Je pense que c'est le rêve de tout le monde de finir, alors soit la WWE, soit ailleurs, on va dire avec un contrat dans une grosse fédération. C'est l'objectif, quoi. De pouvoir en vivre pleinement.
Donc là, du coup, ton contrat s'est arrêté, t'es retourné en France. Comment ça se passe en fait pour quelqu'un comme ça qui sort d'un contrat WWE? Comment tu te remets un peu le pied à l'étrier? C'est toi qui as contacté un peu toutes les fédés ou c'est venu un peu naturellement du fait que dorénavant t'as une médiatisation un peu plus forte?
Alors, le lendemain de ce fameux appel, honnêtement, j'ai pas attendu la fin de mon extension de contrat. Le lendemain de cet appel, j'ai mis un visuel sur les réseaux sociaux disant que j'étais disponible et j'ai été contacté par énormément de monde. J'ai pas été proactif pour l'instant, dans le sens où j'ai pas envoyé de messages à des fédérations ou quoi. J'attends de voir un peu comment ça se passe vis-à-vis des propositions qui m'ont été faites là. Et puis si ça commence à stagner, par contre j'irai contacter certaines promotions où j'ai envie de travailler avant de prendre ma retraite, parce que mine de rien, je vais pas non plus continuer pendant 10 ans à arbitrer. Donc voilà, il y a certaines choses que j'ai envie de faire avant d'arrêter. Donc voilà, là pour les. D'ici la fin de l'été, j'attends de voir tous ceux qui m'ont contacté. Et après, je commencerai à démarcher, finir en beauté, on va dire.
Alors justement, finir en beauté, après avoir fait NXT UK, c'est quoi? T'as des objectifs bien précis ou des rêves peut-être tout simplement là pour finir ta carrière dans le monde du catch?
Ouais, mais j'ai pas mal de promotions et de pays sur ma liste.
Aha!
Notamment le Japon et les États-Unis. Donc voilà,
Ah
je vais
oui!
pas rentrer dans les détails, mais il y a certaines choses que j'aimerais faire sans forcément décrocher de contrat, mais il y a des choses que j'aimerais faire avant d'arrêter, ça c'est sûr.
Ah ouais. Donc de toute façon t'es loin d'en avoir terminé quoi. Et mais ça c'est une bonne nouvelle. Le Japon, ça serait génial quoi que t'ailles arbitrer au Japon quoi. Tu te verrais sur une des fédés féminines ou carrément aller taper à la porte de gens comme la NJPW, la AJPW, des choses comme ça ou la NOAH ou je ne sais.
Faut voir. Après,
Ah.
honnêtement, au PC, j'étais assez proche de Meiko Satomura. On s'entraînait souvent ensemble en muscu. Donc,
Ouais.
je pense que Sendai, c'est une option. Après, bien sûr, quitte à aller au Japon, autant rester un petit moment et essayer d'arbitrer pour plusieurs promotions là-bas.
Ouais, bah ça serait génial quoi ça. Alors là, vraiment incroyable. Et alors du coup, comment ça se passe? Enfin, t'auras pas trop de problèmes au niveau de la barrière de la langue si t'allais bosser au Japon?
Bah justement, c'est un truc à voir parce que je sais que ils parlent pas très très bien l'anglais, voire pas du tout.
Ouais.
Donc je pense qu'il faudrait peut-être que j'apprenne deux trois mots pour essayer de communiquer. Après, l'arbitrage et le mode d'arbitrage est vraiment différent là-bas, et notamment ils travaillent sans oreillettes. Donc déjà, ça enlève toute la pression de ce côté-là, et j'aurais pas quelqu'un qui va essayer de me parler en japonais ou essayer de me parler en anglais, un mélange d'anglais japonais dans l'oreillette où je vais stresser parce que je vais pas comprendre. Là, il n'y a pas ce côté-là, donc ouais, je pense que ça peut le faire.
Ah ouais, bah c'est clair. Ah ouais, donc ah oui, en fait tu bossais avec un système d'oreillettes à NXT UK, d'accord.
Ouais.
Donc ça veut dire que t'as le mec dans la Gorilla Position, je sais pas qui étaient les producteurs, qui sont les producteurs à NXT UK, mais donc ça veut dire c'est bien pour les gens ça de comprendre ce genre de système quoi. Donc c'est donc tu bosses, tu fais un match, mais t'as une oreillette et t'as un mec qui te donne des indications tout au long du match.
C'est ça, qui va te donner le temps, qui va te donner, par exemple, si le réalisateur veut voir certaines choses, certains angles de caméra, il va te dire de diriger les catcheurs pour qu'ils fassent une prise face à telle caméra ou une autre. Ce genre de détails super techniques en fait, mais c'est vrai que des fois tu es en train d'arbitrer, tu es en train de parler, de donner une indication, tu as une autre info complètement différente qui t'arrive dans l'oreille, il faut enregistrer l'information, la retransmettre au catcheur sans que personne d'autre s'en rende compte en fait, que le public,
Là.
voilà. Donc c'est vrai que c'est faut vraiment être multitâche et en plus vraiment travailler, enfin avoir un gros sang-froid parce qu'en général quand les informations t'arrivent dans l'oreillette, c'est pas oh s'il te plaît, est-ce que tu peux leur demander de se tourner vers cette caméra? C'est non, c'est caméra 2, caméra 2, tu vois, c'est
Ouais,
ça te hurle
d'accord.
dessus en permanence. Donc voilà.
Ouais, ok, ouais, je comprends. Ouais. Alors, du coup, comment. Alors, parce que ça, c'est un truc qu'on connaît pas trop, finalement. Les fans, eux, ils voient ça à leur télé, tout a l'air formidable, tout a l'air extraordinaire, c'est du show, c'est du spectacle. Mais un arbitre comme ça, à la WWE, comment tu fonctionnes, comment ça marche quand tu es sur le ring, au niveau de la communication avec les catcheurs qui sont dans le ring? Il y a des codes précis, comment tu fais pour être bah, discrète, tout en étant dirigiste, j'ai envie de dire. Parce que c'est un peu le rôle de l'arbitre. Donc, comment c'est compliqué ça? Comment c'est
Ouais, c'est
compliqué?
compliqué.
Comment ça se passe? Comment ça se passe ça?
Bah, c'est compliqué. Et en fait, il faut masquer le plus possible tes messages. Donc, en fait, tu vas beaucoup masquer avec ton langage corporel. Donc, par exemple, si on va prendre l'exemple, deux catcheurs sont dans le coin. Forcément, ils n'ont pas le droit d'être dans le coin. Donc, tu vas aller les voir. Et si tu as un message à leur passer à ce moment-là, faut que ton langage corporel, faut que tout le monde ait l'impression que tu es en train de leur dire qu'il faut sortir du coin. En vérité, tu vas leur dire, tiens, il faut que tu fasses ça et ça après.
D'accord.
Ou par exemple, quand il y a
Et
plus de soumission, tu vas t'approcher, tout le monde va avoir l'impression que tu es en train de leur demander si la personne veut abandonner, et en fait, tu leur dis quelque chose qui a absolument rien à voir. Ou alors, tu vas leur donner le temps qui reste, ce genre de choses.
tu donnes le temps qui reste, ouais. Et sur les tombées, par exemple, sur les near falls, est-ce que des fois c'est toi qui indiques aux catcheurs qu'ils doivent kick out ou pas du tout? En fait, c'est les catcheurs qui gèrent ce genre de choses.
Non, il gère. Et si un catcheur reste les épaules au sol, il reste. Tant pis s'il se dégage après le 3. Ça, c'est un truc sur lequel Vince McMahon est vraiment intransigeant parce qu'il veut que l'arbitre soit vraiment shoot, quoi. Donc s'il y a un truc qui n'est pas prévu, tant pis. C'est la décision de l'arbitre qui est finale et ça ne se discute pas.
Oh ouais, c'est la décision du référé qui prime, quoi, en
Ouais, ouais,
fait.
ouais. Et au contraire,
Et
même
ouais.
si jamais, admettons, c'était un faux finish, que toi tu comptes deux, tu t'arrêtes et que le mec s'est pas dégagé, donc c'est toi qui t'es arrêté et du coup t'as mis tout le catch, t'as vraiment mis l'accent sur le fait que ce soit scénarisé parce qu'au final tu t'arrêtes de compter alors que le mec s'est pas dégagé, bah là c'est soit t'as une amende, soit tu te fais virer. Si Vince voit ça, c'est un truc qui passe vraiment pas, quoi.
Parce que Vince, il regardait NXT UK, il a un regard sur la branche britannique.
Alors de temps en temps, je t'avoue qu'à mon avis, il ne regarde pas tous les épisodes. Hein. Mais
Ouais.
oui, parce que je sais qu'on a déjà eu des retours par rapport à certaines choses, et notamment, ou même des catcheurs-catcheuses qui ont été repérés par Vince, notamment Piper, qui est maintenant Doudrop. Lui, il est tombé sur un épisode de NXT UK, il l'a vu, il lui a dit « je te veux ». Il l'a fait venir aux États-Unis, pouf, elle a roue. Donc voilà, ça peut aller très très vite quand Vince décide.
Ouais, quand Vince Staples,
Voilà.
j'imagine que ouais, ça va à la vitesse de la lumière quand le grand nabab du catch mondial dit toi je te veux. Je pense que ça n'attend pas, effectivement, quoi. Et donc tout pour rester un petit peu sur ce qui se passe entre les cordes, est-ce que tu es au courant du script avant le match? Est-ce que l'arbitre il est au courant du script complet, ou en fait est-ce qu'il y a une part d'improvisation, c'est peut-être pas le mot, mais tu vois, en tout cas une part de je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots là. Une part de surprise peut-être pour l'arbitre, ou alors absolument pas, c'est réglé comme du papier à musique, quoi.
Non, c'est réglé.
Ah ouais.
Après, on ne connaît pas tous les détails match entier, sauf si on veut, parce qu'on peut très bien rester avec les catcheurs quand ils parlent du match, il n'y a pas de souci.
Donc tu peux savoir qui va gagner ou pas, mais tu
Ouais.
peux très bien décider aussi de ne pas savoir.
Non, par contre, il y a des trucs, il faut que tu saches quel est le finish, et il faut que tu saches si jamais il y a des moments dans le match où il y a des où l'arbitre est impliqué, notamment des distractions, ce genre de choses, ça, il faut le savoir. Et ça sera de toute manière répété avec des caméras, des angles de caméra. Donc, tu es obligé de le savoir. Par contre, après, si. Voilà, moi, j'aime bien ne pas savoir exactement l'enchaînement des prises ou ce genre de choses dans le match, parce que j'aime quand même avoir la réaction de surprise et improviser à mon niveau, même si c'est pas vraiment de l'impro, puisque je sais quel est le résultat. Mais tout en sachant que s'il y a un imprévu, peu importe. L'issue du match, au bout de 10, ils sont pas rentrés et que c'était pas prévu, et ben c'est 10, tant pis, le match il s'arrête, tu vois.
Ok. Ah ouais, mais alors du coup, par contre, ça doit être un sacré taf parce que tu dois connaître, mine de rien, tous les finishers des catcheuses et catcheurs. Parce que si jamais tu laisses une petite part de surprise dans le match, quoi qu'il arrive, il faut absolument que tu sois raccord et que tu saches que bah voilà, tel mec il finit ses matchs avec tel finisher. Et donc c'est mine de rien, t'as intérêt à avoir une sacrée connaissance du roster.
Ouais, et également, surtout les heels, savoir quel genre de tricherie ils aiment bien faire ou pas faire. Pour savoir se positionner, par exemple. Ouais, en fait, il faut que tu connaisses le moveset de chaque personne par rapport au positionnement. C'est hyper important, en fait, pour pas les gêner, pour se dire que, bah tiens, par exemple, Amal, il y a une prise qu'elle fait dans le coin. Donc, en général, quand elle met son adversaire dans le coin, tu sais qu'elle va courir à l'autre côté à l'opposé du ring pour revenir et lui mettre un big boot dans la tête. Donc ça, par exemple, je sais que quand j'arbitre ces matchs, si elle met une fille dans le coin, il faut que je me décale pour pas la gêner quand elle va courir, tu vois, c'est...
C'est en fait ton positionnement dans l'espace du ring, en fait, en tant qu'arbitre, ça c'est vachement important. Pas gêner les catcheurs, mais en même temps pouvoir être suffisamment proche d'eux pour pouvoir passer les consignes, vérifier qu'un mec est pas blessé ou quoi que ce soit. Et ça t'est arrivé ça d'ailleurs pendant les matchs d'avoir malheureusement un worker qui se blesse?
Ouais, mais j'ai eu
Ah ouais?
une expérience horrible. En fait, match de championnat entre Blair Davenport et Meiko Satomura. Et j'ai été obligée d'arrêter le match, en fait. Voilà. Je sais pas si tu as vu le match, ça s'est passé il y a quelques mois. Il y a Blair qui était sur la troisième corde, qui a fait un stomp à Miko et qui devait atterrir à l'extérieur du ring. Et en fait, quand elle est atterrie, son pied s'est tordu à l'envers. Elle est tombée de tout son poids dessus et voilà, voilà, elle a poussé des cris vraiment qui m'ont crevé le cœur. Ça a été vraiment très très dur d'entendre une personne souffrir comme ça. En plus, c'était à huis clos encore. Donc quand tu te blesses et qu'il n'y a pas de public, mais c'est horrible parce que tu as zéro adrénaline en fait. Tu te blesses à froid quasiment. Et là, j'ai arrêté le match tout de suite parce que c'était évident qu'elle ne pouvait pas continuer.
Ah ouais, ça c'est terrible ça, ouais. En plus, ah ouais, tu m'étonnes, en plus pendant la période Covid avec personne dans le public, donc t'entends d'autant plus les cris et la souffrance de la catcheuse, donc c'est vrai que ça a dû être assez terrible. Alors du coup, c'est quand même assez fou parce que je crois que t'es la deuxième femme arbitre de l'histoire, en France je parle, et c'est incroyable finalement. Moi, je suis assez sidéré par le fait que les femmes comme ça dans le catch en France sont énormément à l'affiche. Et c'est bien finalement, le catch va un petit peu à l'envers des autres disciplines où c'est tout le temps les hommes qui sont mis en avant en permanence. Et là, tout d'un coup, bah bam, dans le catch mondial, on a une Amal, on a une Artemis. C'est génial cette émulsion qu'il y a avec les filles dans le catch. Ça vient de quoi, ça, à ton avis? C'est un espèce de hasard? C'est le destin? C'est le travail? C'est quoi qui est responsable de ça?
Alors là, aucune idée. Je ne sais pas si vraiment les femmes sont mises en avant ou pas, mais ouais, en tout cas, enfin, le travail, ça c'est sûr et certain. Tu n'arrives pas à un niveau, à un haut niveau ou au niveau professionnel sans une grosse dose de travail derrière. Il y a peut-être une partie chance, mais quand je dis chance, c'est vraiment quand tu as le travail derrière et que tu rencontres peut-être la bonne personne qui te met sur un certain chemin. Mais c'est pas, voilà, c'est pas la chance pure, genre tu as fait un entraînement et ça y est, tout de suite, tu vas être repéré. Je sais pas. En tout cas, c'est très bien et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre ce chemin.
Ouais, j'espère bien aussi que de toute façon tu vas avoir ouvert la voie comme le fait Amal à l'heure actuelle. Moi je pense que de toute façon c'est un des il faut des locomotives au départ hein, pour pouvoir lancer la machine et moi je pense que c'est exactement ce que vous êtes toutes les deux. Alors du coup t'es une arbitre etc. mais j'imagine que avant de te lancer vraiment dans le catch, je sais pas si tu avais l'intention en fait de te lancer dans le monde du catch, mais j'imagine que tu as été une fan auparavant quoi, et tu suivais quoi? Tu suivais la WWE avant de te lancer dans l'ignoble sport?
Bah ouais, comme un peu tout le monde de ma génération, je suis tombée sur le catch à la télé avec commenté par Christophe et Philippe et voilà, c'était le coup de foudre instantané. Donc ouais, la génération catch attack, NT1, RTL.
Alors comment t'as fait pour comment t'as été sonné à quelle porte au départ pour pouvoir te lancer dans le catch?
Bah, à 18 ans, j'ai cherché une école de catch près de chez moi. Donc je m'y suis inscrite, j'ai commencé les entraînements. J'ai un peu catché, après voilà, j'avais pas. Je pense que j'étais une bien piètre catcheuse, pour être tout à fait honnête, par manque d'entraînement, par manque de formation professionnelle surtout. Et puis voilà, je me suis très très vite catché, donc je me suis vite reconverti dans l'arbitrage en fait.
Ouais, tu t'es vite reconverti suite. Ok, du coup, quand tu t'es retrouvé, comment ça se passe? En fait, tu as fait une formation, tu as fait une école de catch, tu as fait quelque chose, comment ça s'est passé?
Oui, je suis allée m'entraîner. Après, c'est une voilà, c'est l'école que je ne recommande pas du tout parce que malheureusement, il n'y a pas de réglementation en France et n'importe qui peut ouvrir son école de catch puisque ce n'est pas considéré comme un sport, ce n'est pas rattaché voilà, au ministère des Sports.
Voilà.
Donc, n'importe qui peut ouvrir peut s'improviser entraîneur. Donc, voilà,
Ouais.
je vais te dire, je me suis entraînée, c'était voilà, le cadre était vraiment pas pro, c'était. Voilà, donc. Je considère pas avoir suivi une formation de catch, vraiment. C'était
D'accord, ouais. C'est ça qui doit être compliqué en France, justement. C'est un peu les structures sont très diversifiées et très morcelées sur tout le territoire. Il n'y a pas une grosse locomotive, justement, dans le catch français avec une fédé qui serait un peu au-dessus de tout. Et donc, du coup, ça peut être assez compliqué. Et c'est ça qui m'a épaté, moi, en fait, dans ton parcours. C'est que bah, tu es une arbitre, mais qui vient de France, donc dans un pays qui a une culture peut-être beaucoup moins développée sur le pro-wrestling que dans d'autres endroits en Europe. Et bon, en États-Unis, Japon, Mexique, Canada et compagnie, on n'en parle même pas. Donc c'est tout à ton honneur quand même d'avoir ouvert ce chemin et d'avoir réussi à t'imposer quand même là-dedans. Médiatiquement, tu es quand même certainement, enfin en tout cas moi je le vois de cette manière-là, tu es certainement l'une des figures les plus connues dans le monde du catch français. Et c'est vrai qu'on se dit que j'ai envie de te dire qu'on a envie de te voir aller encore plus loin et plus haut.
Bah merci, ce genre de soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et bah oui, j'espère que c'est pas la fin, hein, ce serait dommage. Et pour en revenir aux formations, justement, c'est quelque chose que bah, moi j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Donc là, j'ai commencé avec la HCP, j'ai déjà fait quelques stages là-bas. Cet été, il y en a également en prévision, donc j'aimerais vraiment pouvoir former des arbitres en France parce que c'est quelque chose qui manque énormément. Déjà, c'est compliqué de trouver une bonne structure pour se former en tant que catcheur, mais ces structures-là, ben, Avant que j'arrive à la WWE, il n'y avait pas eu d'arbitre professionnel en France, en fait. Personne n'en vivait, personne n'a eu cette formation, et moi, c'est ce que j'aimerais transmettre, en fait, transmettre tout ce que j'ai appris à la WWE pour pouvoir former des arbitres qualifiés en France.
C'est génial, si en plus tu te lances dans la transmission, alors là, mes amis, peuple de catch-up, ou jeunes et moins jeunes, si vous avez envie, là, je pense qu'il y a une coach d'exception qui peut nous former des arbitres et des catcheurs ou catcheuses pour la suite, quoi. Donc ça c'est assez génial. C'est plutôt une grande nouvelle. Qu'est-ce que tu penses des différentes fédés là qui tournent en ce moment? Moi, je trouve qu'il y a un espèce. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a un espèce d'essor du catch français là depuis quelques années. Malheureusement, il y a eu un couvercle de poser avec la crise sanitaire. Mais moi je regarde assez régulièrement la Rix Catch. Je suis un suiveur aussi de la Wrestling Pro Wrestling. Enfin, je suis du catch français en général. Est-ce qu'il y a des promotions à l'heure actuelle là, qui t'intéressent plus particulièrement ou tu trouves qu'il y a eu un bel effort de fait et que ça va de mieux en mieux? Est-ce qu'il y a des endroits où vraiment tu as envie d'aller travailler vraiment régulièrement?
Oui, par exemple, j'aimerais bien pérenniser la Rix puisque j'ai travaillé pour eux. Ça a été ma première date post-WWE. J'ai été très très satisfaite de l'organisation, de l'accueil. Ça s'est très très bien passé. Donc c'est vrai que j'aimerais bien travailler plus pour eux. Après, je travaille pas mal avec la Héritage Catch Professionnel HCP dans le sud-est de la France.
HCP, ouais.
Ouais.
À Montpellier, c'est ça, hein?
Non, ils sont à Bollène.
Non. À Bollène, ah ouais, ok.
Et je crois à une heure de Marseille, un truc comme ça. Eux, j'ai déjà fait des stages d'arbitrage chez eux et je vais certainement en refaire par la suite. Eux, pareil, l'organisation est top, très bon accueil. WPE, j'avais arbitré avant d'être signé et là, j'y retourne en octobre. Donc, j'ai prévu mon retour.
Eh ben, écoute. Bah écoute, ma chère Artemis, nous allons nous voir là-bas.
Ah, super.
Parce que moi, je suis un local de la WPE. Alors moi, pour le coup, j'habite à 1 km de leur lieu d'entraînement, quoi.
Effectivement.
Et je connais très bien El Payo, le chairman de la Wrestling Pro Essonne. Et samedi prochain, à l'heure où on enregistre, là, il y a un show de la WPE qui se déroule où je serai présent. Et pour le Quality Over Quantity 2022, je serai également présent. Je voulais voir d'ailleurs avec notre cher chairman de la WPE un peu qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y faire dans ce show et écoute, bah, c'est une super nouvelle de savoir que tu vas être présente, on pourra se rencontrer à l'occasion et pouvoir discuter en direct, quoi. Ouais, c'est super. Et alors du coup, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a parlé des fédérations françaises. Pour toi, là, les fédérations européennes à l'heure actuelle qui sont au top et où t'aimerais bosser, c'est quoi là?
WXW, bien évidemment. Progress.
Bien sûr.
ICW. En
la Progress, ouais. Ouais.
Un peu, enfin ceux qui sont diffusés sur le network, hein, ça c'est sûr. Honnêtement, j'aimerais bien faire Bodyzoy parce que ça a l'air bien sympa.
Ouais, ils ont le vent en poupe aussi.
Ouais, ouais, ouais. Après, je pense que c'est les plus grosse fédé à l'heure actuelle. Après, honnêtement, j'aimerais bien faire chaque pays d'Europe. Ça, c'est mon petit truc. Petite liste. Ouais, dire, voilà, j'ai fait tous les pays d'Europe. Donc là, je rajoute l'Espagne dans 2 semaines. Je suis en contact.
Tu vas bosser pour quelle fédération en Espagne?
Alors, c'est AWZ de mémoire. Ils sont à Saragosse.
À Saragosse? Ah ouais, ok, d'accord. Ah, et c'est génial, hein, tu fais un road trip européen dans le cadre de l'arbitrage de catch, c'est quand même assez extraordinaire, moi je trouve. C'est bien fun, ça. Ça permet de voir du pays tout en pratiquant sa passion, donc moi je trouve quand même que c'est cool. Ça, c'est une question que j'avais envie de te poser, que j'avais gardé un peu pour la fin, justement, quoi. Est-ce que t'es vraiment dans la passion là dans le cadre du catch, quoi. Donc j'imagine que ça doit être un plaisir quand même de bosser sur un truc que tu aimes, quoi.
Oui, et c'est également pour ça que je suis partie de la WWE, parce que c'était vraiment devenu un job et j'avais plus ce côté passion. Et je me suis dit que ce serait franchement très dommage d'en arriver à être dégoûtée du catch. Donc je pense que je suis partie au bon moment et justement le show de la Rix m'a fait énormément de bien, celui de la HCP la semaine dernière, parce que j'ai vraiment retrouvé le côté passion et le côté plaisir de l'arbitrage et du catch, chose que j'avais plus vraiment depuis un certain temps.
T'avais perdu un peu la fibre après ton passage à NXT UK, quoi. C'était vraiment devenu un peu trop métro boulot dodo. On sent que c'était intense et que les gens autour de toi étaient pas forcément super sympas, quoi. On était vraiment dans boulot, quoi.
C'est pas qu'ils étaient pas sympas, mais c'est juste que je pense que tout le monde est tellement stressé et tout le monde a tellement peur pour sa place. Que, enfin surtout depuis ces derniers temps, que l'ambiance est pas exceptionnelle, quoi.
C'est assez toxique quand même, ça, comme tu vois. Je trouve ça assez, c'est dommage quand même, quoi, que les gens soient comme ça, autant stressés, parce que finalement il y a une espèce d'épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, quoi.
Et ouais, mais malheureusement ça, depuis qu'ils ont remanié l'office, c'est la culture, quoi.
Ah ouais, c'est la culture de la boîte, quoi. Ouais. Ça se passe comme ça, quoi. Eh ben, dis donc, c'est assez fou, quoi. Moi, je peux comprendre après que finalement t'en aies eu marre et que t'aies décidé de rentrer. Ça peut parfaitement s'entendre au vu de ce que tu expliques, quoi. Alors du coup, écoute, on arrive sur la fin de cette petite interview. Tu nous as déjà un peu expliqué tes objectifs là. Si je devais te demander, je sais pas, un match de rêve là où il y aurait Artemis au milieu et qui arbitrait un match, je sais pas, là tu es comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, un multi-match, un six-pack challenge, un fatal four-way, je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu rêverais, quoi, si demain je te dis Artemis, demain c'est tel match, et tu me dirais ouais, je veux ça.
Alors là, tout de suite, spontanément, je vais te dire Samoa Joe contre Kyle O'Reilly.
Oh,
voilà.
Du super méga lourd. Vas-y, fais-toi plaisir. Et chez les femmes ?
Chez les femmes.
Si tu devais arbitrer des femmes, là, à l'heure actuelle, quel genre de match t'aimerais arbitrer ?
Alors. Je vais prendre Toni Storm parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas arbitrée du coup et qu'elle est top. Et j'aimerais bien la mettre contre Bianca.
Ah ouais,
Bianca. Bon, on fait un match-up, hein, mais ouais.
Ah ouais, ouais.
Ça peut être un beau match.
T'as eu l'occasion d'approcher d'ailleurs quelques stars du roster côté États-Unis.
Comment ça?
Je sais pas, est-ce que t'as des catcheurs de la WWE qui sont venus faire des petits tours à NXT UK, voire même des entraîneurs? Tu parlais de Matt Bloom tout à l'heure. Est-ce que NXT UK en fait est surveillé du coin de l'œil, tu vois, par ce qui se passe dans le big roster de la WWE?
Ouais, on avait eu Finn Balor qui était venu juste avant le Covid. Je crois qu'il avait eu un match contre Ilya d'ailleurs, de mémoire.
Il me semble bien, oui.
Ouais, donc il y a eu lui, après on avait eu Chris Hero qui était venu en tant qu'entraîneur. Ça c'était super, on avait fait une session d'entraînement pendant 2 heures. Il a fait que des pins et il a montré, mais je ne sais combien de centaines de différentes séquences de pins, et c'était incroyable, parce que franchement tu te dis 2 heures c'est hyper long, il n'y en a pas tant que ça.
Ah ouais.
Pendant 2 heures il t'en a montré un différent à chaque fois.
Incroyable. Ouais, Chris Hero en plus c'est un sacré morceau, quoi. Donc ouais. ça devait être assez impressionnant, quoi. Ouais, et Finn Balor, quel athlète, quoi, celui-là. Oh, la vache.
Ouais, ouais. Non, c'était super. En plus, je crois que c'était l'une de nos dernières dates avant le Covid. Et quand sa musique s'est lancée, j'ai eu la chair de poule. C'était parce qu'en plus il a une musique qui est très, enfin moi qui me prend au trip avec les lumières, tout ça.
Ouais, qui est super super reconnaissable en plus, quoi. Donc effectivement, dès que Finn Balor arrive dans l'arène, on le sait, quoi. Oh. Ah, Samoa Joe, j'adorerais te voir arbitrer Samoa. J'adore Samoa Joe.
Mais moi aussi.
Un de mes catcheurs favoris, quoi. Donc c'est voilà, depuis toujours, c'est lui qui m'a fait regarder la TNA à l'époque, quoi. J'étais tombé totalement par hasard sur un truc de la TNA, je connaissais pas, et j'étais tombé sur Samoa Joe. Et je suis tombé fall in love de Samoa Joe, quoi. J'ai trouvé ce catcheur direct extraordinaire, quoi. Et donc, écoute, ça me ferait largement plaisir de te voir un jour arbitrer Samoa Joe, et c'est tout ce que je te souhaite. Bon, écoute, Artemis, je te remercie beaucoup d'être passé à Catch Up. Merci de nous avoir donné ton temps. C'était super de pouvoir échanger avec toi. Toute la team Catch Up était super fière là de savoir que tu débarquais dans le studio et que t'allais nous faire l'honneur de You Talk Too Much. On n'a que des bonnes choses à te souhaiter. On va suivre ta carrière avec la suite de ta carrière avec plein d'attention. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses, que un petit message de l'actualité, de la promo à faire? Si tu en as à faire, c'est le moment.
Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que je n'ai pas été trop négative parce que c'était pas juste du négatif, non, la WWE, mais c'est vrai que c'est important de parler de cet aspect parce que c'est pas forcément tout rose tout le temps. Donc voilà, il y a du positif, il y a du négatif, c'est comme ça. En tout cas, moi, ça va très bien depuis que je suis partie. Tu me dis faire de la pub, écoutez, j'ai du merch. Si vous voulez aller voir, j'ai des t-shirts et des photos. Donc vous allez sur mes réseaux sociaux, il y a le lien dans la bio. Et puis voilà, les prochains shows seront annoncés également sur les réseaux sociaux. Je vais avoir la HCP dans le sud de la France, la WPE, on l'espère la RIX. Donc si vous voulez me voir en vrai, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vais poster tout ça.
Okay. Écoute, moi je te suis, le Twitter de Catch Up te suit déjà assidûment depuis longtemps, et puis je suis ravi parce que j'apprends que de toute façon on va se croiser bientôt dans mon département pour un show de la Wrestling Pro Essonne, et ça va être super cool. Donc il me tarde d'arriver au mois d'octobre. Artemis, j'ai été ravi de t'avoir, je pense que la communauté Catch Up ne va pas s'en remettre et c'était tout à fait le but. Je vous rappelle, mon cher peuple de Catch-Up, que vous pouvez nous retrouver sur la communauté Discord. N'hésitez pas à vous inscrire. Tous les liens sont dans la description des vidéos YouTube. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier Artemis pour sa présence au studio Catch-Up. Merci beaucoup à toi, Artemis.
Et merci à toi, merci à tous et à très bientôt.
Allez, peuple de Catch-Up, c'est sur ces bons mots qu'on vous laisse. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Artemis et salut peuple de Catch-Up! La vache, j'ai parlé avec une arbitre officielle de la Wrestling Pro Essonne. Alors là, j'en ai au moins pour 2 semaines à m'en remettre.